Dans notre texte, dans notre deuxième lettre de Pierre, il veut nous encourager, Pierre veut nous encourager à connaître Dieu de mieux en mieux. Il veut que nous grandissions de façon pratique dans notre connaissance de Dieu. Il s'adresse, on l'a vu, aux chrétiens de son époque. C'est au tout début, le premier verset de la lettre, deuxième lettre. On l'a vu plutôt à la première lettre, et après il a dit qu'il s'adresse aux mêmes. C'était des chrétiens qui vivaient en Asie mineure et sur lesquels la persécution commençait à arriver. Et il le veut, il s'adresse aussi à tous ceux qui ont reçu une foi de même valeur que la sienne par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse aux chrétiens de tous les temps, de tous les âges. Il veut nous protéger des fausses doctrines. D'abord, il nous explique, on l'a vu ça la semaine dernière, que Dieu a tout fait pour nous, pour qu'on le connaisse, qu'on ait une vie ordonnée selon sa volonté. Il a tout fait pour nous, et en retour, nous devons tout faire pour lui. Et là, comme toujours, il y a un équilibre à avoir. La merveille de la vérité biblique, c'est que Dieu agit avec nous selon sa grâce. C'est-à-dire qu'il ne nous bénit pas en échange de nos efforts. Il nous bénit. Et ces bénédictions transforment notre vie et font que nous changeons. Mais on a vu qu'il nous invitait à faire tous nos efforts. Dieu a tout fait pour nous, mais en retour, il nous demande de faire tous nos efforts. Et c'est là qu'il y a besoin d'un équilibre, parce qu'on pourrait penser que si on fait des efforts, là, il va nous récompenser parce qu'il nous aimait. Mais il nous dit non, je vous aime. Mais en retour, si vous avez bien compris ça, vous allez vouloir faire tout pour moi. Ce n'est pas une précondition, ce n'est pas une condition, plutôt, à son amour, mais c'est une réaction naturelle. Lorsque quelqu'un vous fait du bien, votre tendance est de faire du bien à cette personne en retour. Et donc, je disais, il faut un équilibre, parce que certains pensent que tout est par la grâce, et c'est vrai. Et donc, on n'a aucun effort à faire. On peut rester au lit, c'est pas besoin de venir aux réunions le dimanche matin, pas besoin de lire sa Bible. Mais, non, Dieu veut que nous fassions des efforts. Et en même temps, notre tendance, c'est de penser que si on fait des efforts, on va mériter plus. Et c'est pour ça qu'on vous invite, par exemple, à chaque jour, à passer du temps dans la parole de Dieu, à prier, seul, peut-être avec votre, et aussi avec votre épouse si vous êtes marié. Mais il ne faut pas que ça devienne une loi. Par exemple, si un matin vous ne lisez pas la Bible comme vous l'avez commencé à le faire, ne vous culpabilisez pas. Dieu agit par la grâce. Mais en même temps, plus vous le connaissez, plus vous avez envie de le connaître. Et donc, chaque matin, ça devient quelque chose. Vous devenez accro de la parole de Dieu. Et ça, c'est une bonne addiction. Laissez-vous accrocher par la parole de Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle personnellement. La parole, vous pouvez la lire tous les jours de votre vie. Elle aura toujours quelque chose de nouveau à vous dire ou à vous rappeler. Et on va revenir à cet aspect des choses. Et on a dit qu'il y a deux mots pour traduire, on traduit le mot, deux mots grecs par le même mot, le mot connaissance, connaître. Et en fait, il y a deux sortes de connaissances. Il y a une connaissance intellectuelle et puis il y a une connaissance pratique. Et j'ai expliqué la semaine dernière qu'on peut connaître certaines choses sans en avoir une expérience pratique. Et ce n'est pas la même chose. On peut lire une recette d'un délicieux gâteau, connaître, l'apprendre par cœur, voir même des photos, même des vidéos, mais tant qu'on n'a pas pris le gâteau dans sa bouche et qu'on ne l'a pas savouré, on n'a pas une connaissance expérientielle. Alors vous trouvez que c'est peut-être une analogie bizarre, mais le psalmiste dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». Et lorsqu'on goûte et qu'on voit que le Seigneur est bon, on a envie de davantage de Seigneur et on a envie de que notre vie soit une vie plaisante pour lui. Et là, il va nous montrer encore une fois comment mieux connaître le Seigneur. On va lire à partir du verset 12 à la fin du premier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. C'est page 267 dans la Bible à la Colombe. Il vient de parler de nous dire que Dieu avait tout fait pour nous, qu'on participait à la nature divine, mais qu'on devait faire tous nos efforts. Et j'aime pas citer les mots grecs, ça fait un peu pédant, mais j'aime bien le mot spoudazo, faire tous vos efforts. C'est pas oh je vais essayer, non, c'est appliquez-vous, levez-vous le matin, faites tous vos efforts pour ajouter. Et là, on a vu une espèce d'échelle. À votre foi, ça commence par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, la parole. Donc ça commence avec la parole. Et puis la foi, il faut ajouter la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Connaissance pratique. À la connaissance, la maîtrise de soi. Savoir se contrôler les appétits de la chair, les tentations. À la maîtrise de soi, la persévérance. Parce que si on arrive à se maîtriser pendant 5 secondes seulement, ça ne va pas aller bien loin. Il faut qu'on persévère dans la maîtrise de soi et dans toutes ses qualités. Et puis dans la persévérance, la piété, c'est-à-dire une vie qui plaît à Dieu. À la piété, la fraternité, la communion entre les chrétiens et aussi à l'amour, à la fraternité, il faut ajouter l'amour. L'amour, agapé, c'est ce mot qui était peu utilisé dans le langage grec de l'époque, mais que les chrétiens ont repris à leur compte pour désigner un amour dont l'objet ne compte pas. Ce qui compte dans l'amour agapé, c'est la source. On a souvent tendance à donner de l'amour à ceux qu'on trouve dignes d'en recevoir. On voit Daphné qui sourit, on a envie de l'aimer. Mais l'amour de Dieu, c'est pas seulement pour les gens qui sont aimables. C'est même pour les gens qui sont pénibles, qui ne méritent pas son amour. C'est un amour qui vient de Dieu et non pas de l'objet de son amour. Et ça, c'est un amour bizarre, un amour étrange qui n'est pas terrestre. C'est un amour venu d'ailleurs, un amour venu de Dieu, que Jésus et Dieu ont manifesté à la croix. C'est un amour qui doit être déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Ce n'est pas un amour qu'on peut manufacturer, ce n'est pas un amour qu'on peut imiter. On peut le faire pendant un certain temps, mais on va vite vérifier que c'est un amour agapé, un amour venu de Dieu ou pas. Et seul, on peut pas dégager cet amour, on ne peut pas manifester cet amour. Il faut l'aide de Dieu. Donc, il a dit, vous ajoutez toutes ces choses, et si elles existent en vous, qu'elles se multiplient, alors vous n'allez pas manquer de porter du fruit, vous allez être très occupé dans votre vie. Lorsque Jésus nous dit qu'il veut nous donner la vie abondante, c'est parce que si nous vivons par ce principe d'amour, il y a beaucoup de gens et de situations à aimer, beaucoup de monde à avertir de l'amour de Dieu. On ne va pas manquer d'activité. Et puis, il dit que si on affirme ces choses-là, on va une large entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous est assuré. Si on vit de cette façon, on peut avoir l'assurance qu'on va entrer par la grande porte où le Seigneur nous dira « Bien, bien fait, fidèle serviteur, entre dans la paix de ton maître. » Et verset 12, il nous dit « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu l'honneur et la gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On voit combien Dieu s'est saisi de Pierre par l'intermédiaire de son Esprit-Saint pour lui permettre d'écrire ces choses si profondes en quelques phrases concises et puissantes. Et donc, il nous dit d'abord qu'il veut nous rappeler des choses. C'est un bon enseignant, par la grâce de Dieu. Il veut nous rappeler les choses pour que nous les sachions bien. La raison, c'est qu'il le dit un peu plus loin, c'est qu'il sait qu'il n'en a plus très longtemps sur la terre, pour longtemps de vivre encore sur la terre. Et donc, c'est comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le chant du cygne. Il veut communiquer tout ce qu'il a à communiquer à l'Église, aux chrétiens de l'époque, mais aussi aux chrétiens de tous les temps. Il veut rappeler des choses qu'il a dites, pour bien les souligner, et aussi parce qu'il sait que nous avons tellement tendance à oublier. Nancy est en train de préparer le code de conduite pour passer le permis français. Elle a conduit depuis longtemps avec un permis américain, mais à passer un temps, il faut passer au permis français. Et moi, c'est étonnant, en France, une fois qu'on a le permis, on l'a pour l'instant juste pour le restant de ses jours. Et certains veulent instituer un permis à passer l'âge de 70 ans, qu'on repasse un peu des tests, parce que les réflexes ralentissent, mais aussi la connaissance des lois, la connaissance du code de la route. Je vois combien moi j'ai oublié de choses. Elle me dit... C'est combien la distance de freinage sur une route mouillée quand on va à 70 km/h? Bah, je sais pas, tu le sens, quoi. Tu laisses un peu d'espace pour pouvoir freiner, quoi. Et là, c'est 32 mètres ou je sais plus quoi. Toutes ces choses, je les ai oubliées. J'ai fait des études de maths, d'ingénieur, tout ça. J'utilise plus beaucoup les formules. Je crois que je pourrais encore faire la démonstration des racines d'une équation du second degré. Ce n'était pas trop difficile. C'était A2 moins B2 égale A plus B par A moins B. De là, on peut trouver les racines. Il y a des ingénieurs qui utilisent... Maintenant, ils utilisent les ordinateurs, donc ils ont oublié eux aussi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier les choses. Et en particulier lorsqu'on étudie la Bible, c'est pour ça qu'il est bon de la lire régulièrement, de lire toute la Bible. Et j'encourage tous ceux qui le font. Je sais que Manu a mis en place un système pour les anglophones. J'ai mis en place un système pour les francophones. Vous pouvez même lire en écoutant, ce qui vous permet de vraiment concentrer votre attention. Et il suffit vraiment d'un quart d'heure par jour pour lire toute la Bible, même lire les psaumes deux fois en une année. Et vous remarquez comment les années vont de plus en plus vite. Et là, on est de nouveau dans l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, les Nombres. Et on a besoin qu'on nous rappelle les choses. Il veut nous rappeler aussi de pratiquer ces choses. Il dit, je sais que vous savez toutes ces choses. Et ça, c'est aussi une bonne pédagogie, c'est d'encourager ceux à qui on apprend quelque chose. Il y a des bons professeurs, des professeurs qui encouragent les étudiants et puis d'autres qui essayent de les casser. Et l'enseignement français a tendance à casser les étudiants. Si vous avez, on en parlait il n'y a pas longtemps et on disait oui, on peut être un très bon étudiant en terminale et puis on rentre en classe préparatoire où on retrouve plein de très bons étudiants. Et il y a des profs qui vont vous dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes mal orienté. Vous devriez faire de la littérature plutôt que des maths. Alors qu'on s'habitue à un rythme très soutenu d'interrogations, de colles, de devoirs, de choses à préparer. Mais le bon enseignant nous dit, c'est bien. Et là, Pierre nous dit, je sais que vous savez ces choses. J'en doute pas. Mais je vais vous les rappeler pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. Vous savez, mais je vais vous le rappeler pour que vous sachiez encore mieux. Et ça, c'est aussi une chose que, lorsque l'on étudie la Bible en suivi, comme on le fait typiquement dans le mouvement Calvary-Chapelle, on va repasser sur des passages en fonction de la répétition voulu par le Saint-Esprit. Il y a certains mouvements où il y a quelques sujets qui sont fondamentaux pour le mouvement, et la tendance, ça va être de prêcher plus souvent sur ces sujets que le Saint-Esprit n'en parle dans la Bible. L'avantage de faire toute la Bible, verset par verset, chapitre par chapitre, livre par livre, c'est qu'on va avoir la répétition voulue par le Saint-Esprit. Il leur dit aussi qu'une des raisons pour laquelle il écrit ces choses, qu'il veut qu'ils sachent bien, c'est par obéissance au commandement de Dieu. Lorsqu'il avait trahi le Seigneur lui avait parlé, en lui demandant, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes comme un ami? Est-ce que tu m'aimes comme moi je t'aime? Et le Seigneur lui avait dit, dans Luc 22, il lui avait dit, quand tu seras revenu, Luc 22, 32, je préfère le lire plutôt que de mal le citer, j'ai prié pour toi, Satan a demandé de passer au crible comme le blé, de faire passer par des épreuves. Mais verset 32, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Donc c'est ce désir qu'il a d'affermir, dans la vérité, ses frères. Et puis il dit aussi, c'est simplement parce que c'est juste, c'est une bonne chose à faire. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. C'est la bonne chose à faire. Et il parle de tente. Est-ce qu'il parle de camping? Non, bien sûr, c'est... La tente, c'est une analogie pour parler du corps humain. Tant qu'il est ici-bas avec ce corps humain, il veut faire tous ses efforts pour garder les chrétiens réveillés par ses rappels. La tente. Qui c'est qui aime faire du camping ? Il y en a qui aiment faire du camping ? Surtout la première nuit. La deuxième nuit, c'est un peu moins drôle, surtout s'il a plu. Mais au bout d'une semaine, on a hâte de retrouver un vrai lit, de retrouver... Et une façon spirituelle de voir notre vie, c'est qu'on est là pour un temps. Et le corps dans lequel nous vivons, ce n'est pas la vraie personne, c'est comme une tente. Et une tente, au début, quand on la monte, surtout si on prend soin de bien la monter, elle est bien tendue, les câbles, les fils sont parfaitement orientés, les piquets sont bien enfoncés dans la terre, tout est propre, tout est net, on croirait une démonstration, une tente de démonstration à Décathlon. Mais au bout d'un moment, ça se relâche. Les muscles du cou commencent à tomber un peu. Et c'est drôle tout ce qu'on peut nous vendre. Et surtout, je crois que les femmes sont encore plus proies à ces charlatans. Tous les produits qu'on peut vous vendre pour que la tente ne se détende pas. Je me souviens, ma maman... Elle était soucieuse de sa beauté, elle était très belle, mais elle avait un espèce de petit truc en plastique. Il y avait un manche en plastique et il y avait une petite, comme une petite cuillère, mais c'était souple au bout. Il fallait qu'elle se tape le cou pour muscler les muscles du cou. Je ne crois pas que c'est jamais marché, mais ça rendait riche certains charlatans. Et puis maintenant, il y a tous ces produits de beauté qu'on vous vend. Et on vous fait des dessins en 3D de votre visage pour vous montrer qu'avec la poudre de pimprenelle qu'il y aura dedans, ou le Rétinax ou je ne sais pas quoi, ça va retendre votre peau et vous allez retrouver votre visage d'il y a 20 ans. Il y a aussi dans le domaine des cheveux pour les hommes. On veut éviter que les cheveux ne tombent, parce que c'est pas beau, un crâne chauve. À part d'être vraiment très beau, comme Yul Brynner, c'était un grand acteur qui était... Et il nous dit, il sait que son départ est imminent. Le mot départ, c'est le mot d'exode. Et c'est une belle façon de voir la mort pour le chrétien. La mort du chrétien, c'est pas une tragédie définitive et terrible, c'est un passage. C'est un passage d'une vie d'esclavage à une vie de libération. C'est comme l'exode du peuple juif qui était dans l'esclavage en Égypte et qui est entré en terre promise. Encore que ça soit une mauvaise analogie, parce que la terre promise des Juifs, c'était encore un endroit où ils devaient livrer des batailles. Nous, lorsque nous serons en présence du Seigneur, nous n'aurons plus de bataille à livrer. Et il nous dit, verset 14, oui, que plutôt 15, il dit qu'il aura soin qu'après son départ, qu'après sa mort, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Et là, c'est intéressant des fois de voir que le mot qui est traduit par « j'aurai soin », figurez-vous que c'est le mot « spoudazzo ». Là aussi, il fait tous ses efforts pour qu'on se rappelle. Donc, il écrit cette lettre qui nous est restée. Mais on pense aussi que l'évangile de Marc, c'est un évangile qui a été écrit sous la dictée de Pierre ou sous l'influence de Pierre. Marc était un compagnon de Pierre pendant longtemps. Et ainsi, on sait de quoi il est question. Cette illustration du corps étant une tente, elle est souvent utilisée dans le Nouveau Testament. Paul, dans 2 Corinthiens 5:1, nous dit « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. » Et puis, il nous dit qu'il veut nous tenir éveillés, nous tenir en éveil par mes rappels. Et là, je vais partager quelque chose d'un peu intime. Peut-être qu'il y a un sens assez grave dans ce rêve, mais j'ai fait un rêve dans la nuit de vendredi à samedi matin. On revenait d'Autriche, on avait roulé toute la nuit, j'étais peut-être fatigué, je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai fait un rêve étrange. Et c'est un genre de rêve où vous vous réveillez le matin et vous avez l'impression que c'est réel. Et il vous faut une minute pour réaliser que ce n'était qu'un rêve. Et c'était une bonne chose parce que dans mon rêve, il était très bizarre. En fait, j'étais au moment de venir prêcher. J'étais resté et je m'étais un peu assoupi. Et Nancy m'avait réveillé, peut-être à la fin. Et j'étais vraiment désorienté. Je n'avais pas ma Bible avec moi, donc j'étais venu, puis j'étais reparti pour chercher une Bible. Et tout le monde me regardait d'un air bizarre. Et puis j'avais commencé à parler, et peut-être au bout d'une phrase ou deux, je ne me rappelais plus rien du tout. Et puis un moment plus tard, je parlais avec des gens. Et en fait, je demandais à Nancy ce qui s'était passé. Elle me dit « Mais tu as commencé à prêcher et tu t'es endormi. » Et j'étais effrayé dans mon rêve d'avoir fait ça. Et il m'a fallu 30 secondes parce que j'étais prêt à aller parler encore à Nancy. Qu'est-ce qui s'est passé? Et heureusement, j'ai dit « C'était qu'un rêve. » Et j'ai trouvé intéressant que j'ai apprêché sur le fait qu'il ne faut pas s'endormir, qu'il faut se tenir en éveil. Alors peut-être que le Seigneur avait des paroles prophétiques, peut-être que je vais m'endormir. Peut-être que ça veut dire que j'ai besoin de me réveiller à certaines choses, que je suis endormi. Ou peut-être c'est simplement pour que vous vous souveniez de rester éveillé dans les choses spirituelles. Donc peut-être certains vont venir me dire ce que le rêve signifie, mais apparemment c'est pas une bonne chose que de s'endormir en prêchant la parole de Dieu. Donc, réveillez-vous, ne nous endormons pas. Il nous dit, verset 16, ce ne sont pas, tout ce qu'il nous enseigne, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas le mot, c'est le mot de mythe. La mythologie grecque et romaine, il y a plein d'histoires jolies, il y a aussi les mythologies indiennes, des histoires sur des dieux, des déesses. C'est intéressant comme histoire, mais ce n'est pas de la réalité, c'est des fabrications humaines. Et il nous dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement. L'avènement, c'est dans cette version, c'est un vieux mot pour dire la venue, la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Pourquoi est-ce qu'on peut se fier à la parole de Dieu qu'on veut vous rappeler, qu'on veut que vous connaissiez, qu'on veut que vous lisiez sans vous endormir? C'est parce qu'elle est digne de foi. Elle est digne de foi, là il nous en présente deux raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas comme les mythologies, des histoires qui ont été inventées par des gens, qui ont créé des... Ça peut être de très belles histoires, de très belles allégories. Non, ce sont des récits de témoins. Lorsqu'on vous demande pourquoi vous croyez à la Bible, vous pouvez leur dire, c'est parce que ça a été écrit par des témoins. Et que ces témoins, dans l'histoire, on a pu vérifier qu'ils étaient des témoins vrais et précis et véritables. Est-ce que vous savez que Napoléon est mort à Sainte-Hélène? Pourquoi est-ce que vous en êtes sûr? Parce qu'on nous l'a appris dans les cours d'histoire, par des maîtres qui avaient été formés par l'éducation nationale, parce qu'il y a des récits, il y a des hommes qui ont écrit leurs mémoires dans lesquels ils ont parlé de ça. C'est devenu une connaissance généralisée. Mais essentiellement, on sait ça parce qu'il y a eu des témoins dignes de foi qui l'ont écrit. Et la Bible, c'est pareil. Il y a des témoins dignes de foi qui ont rapporté ces choses. Ce ne sont pas des histoires de mythologie, ce ne sont pas des fables de La Fontaine ou des fables d'Ésope. Ce sont des choses qui se sont passées devant nos propres yeux. Et là, Pierre fait sans doute allusion à l'épisode de la transfiguration. Parce que c'est un épisode qui est cité dans trois des quatre évangiles. On peut par exemple aller voir Matthieu, on va prendre Luc. Dans Matthieu, Marc et Luc, Matthieu 17, dans Marc 9 et dans Luc 9, il y a le récit de cette transfiguration de Jésus. Regardons ensemble, Jean n'en parle pas, il a son évangile est écrit avec un but un peu différent, pour qu'on sache que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, on ait la vie éternelle. Luc 9, passage 28. 8 jours, c'est page 77 dans la deuxième partie de la Bible à la colombe. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. C'est intéressant que les trois évangélistes Matthieu, Marc, Luc n'étaient pas là, mais Pierre était là et on pense que c'est lui qui l'a rapporté, ainsi que Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Le mot qui est utilisé, c'est le mot en grec de métamorphose. Une transformation, son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est le même mot d'Exode, le départ. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, pour ça que Pierre s'est endormi en prêchant, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute, mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Il leur a fallu du temps pour donner ce récit de la transfiguration dans leur récit des évangiles. Mais il a vu, il a été témoin de ces choses. Il a assisté à ce miracle. voir Jésus qui a pris un aspect divin, qui a commencé à rayonner de l'intérieur. Et j'aime bien ce que disait quelqu'un, le vrai miracle, c'est pas que Dieu se soit mis à briller de la sorte, c'est que pendant sa vie terrestre, il ait réussi à cacher la lumière qui était en lui. Il aurait dû être toujours dans cet état de gloire et de brillance, mais il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, pour nous sauver. Et donc, c'est Pierre qui, et là on voit, il est repris par Dieu le Père. C'était une des choses qui était caractéristique de Pierre, c'est qu'il parlait sans avoir rien à dire ou sans savoir ce qu'il allait dire. Et là, il est tellement émerveillé, il s'est dit, bon, mais on va faire quelque chose. C'est bien, on est bien là. Bah oui, bien sûr. Et puis il voit, la question c'est comment il sait que Élie est Élie et que Moïse est Moïse. Ça, les récits ne nous le disent pas, mais ça nous montre aussi qu'on, sans doute, on reconnaîtra les personnes quand on sera avec Jésus. J'espère qu'à l'époque, en ce temps-là, vous m'irez avec toute ma chevelure et ma peau bien tendue, sans avoir... Mais qui c'est ? Il veut que nous prenions à la lettre parce qu'il a vu ces choses-là. Et donc Dieu le Père lui dit, celui-ci, pas les autres. Les autres sont très bien, mais celui-ci, mon fils bien-aimé, c'est lui le Messie. Le Seigneur reprend Pierre une fois de plus. Dieu le Père reprend Pierre parce que il parle sans savoir, il parle sans avoir rien à dire. Et il y a des gens comme ça que vous connaissez sans doute. Je connaissais une personne dans la famille qui quand elle ne savait pas quoi dire, elle commençait par dire, mais ce qui est important, c'est... Et ça lui permettait de garder le micro, en quelque sorte, et ça lui donnait le temps de penser à un autre sujet de conversation. Pierre, c'était ça. Il ne savait pas ce qu'il allait dire, mais il parlait. Et tout ça pour dire que ces choses-là, tout ce que je vous rappelle, tout ce que je vous dis, c'est des témoins. C'est des témoignages. J'ai personnellement été témoin de ces choses-là. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, le mont de la transfiguration. Et puis, la deuxième raison pour laquelle nous pouvons avoir une foi complète dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est une parole prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La Bible est remplie de prophéties. Rien que pour la première venue du Christ, il y a plus de 350 prophéties qui ont été réalisées à la lettre. Il y a plein de prophéties encore non réalisées sur son retour, sur la fin des temps, qui commencent à se réaliser de plus en plus. Mais les prophéties, c'est pas évident à imaginer, à inventer. Si c'est pas par Dieu qu'on les reçoit, il y a très peu de chances qu'elles se réalisent. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a cette certitude de ce que Dieu est celui qui a inspiré la Bible, parce qu'il y a justement ces prophéties. On n'a pas le temps de rentrer dans le domaine des prophéties, mais c'est toujours un domaine qui est fantastique. Si vous avez fait un peu de maths, vous le comprenez, mais même sans avoir fait de maths, vous réalisez qu'une personne prie au hasard dans l'histoire de l'humanité pour qu'elle arrive à naître à Bethléem, qu'elle arrive à être trahie pour 30 pièces d'argent, qu'elle arrive à trouver un âne pour entrer dans... C'est des choses complètement infimes, au point que si on prenait 7 de ce genre de prophéties, la probabilité pour que ça puisse tomber sur la bonne personne, ça serait 1 sur 10 à la puissance 17. C'est impossible. Et ce n'est pas seulement 7 prophéties qui ont été réalisées par Christ, mais déjà plus de 350, et il y a des milliers de prophéties qui ont été réalisées et qui vont se réaliser. Et la probabilité pour que ces choses arrivent par hasard est absolument quasi nulle. 10 à la puissance 17, c'est une image, c'est de pour qu'une personne prise au hasard puisse répondre à 7 seulement des prophéties, c'est la même chose que si vous prenez, vous mettez des pièces de 2 euros sur une hauteur de 30 cm sur tout le territoire français, mais vous faites une croix avec un marqueur rouge sur une de ces pièces et vous la jetez au hasard quelque part et vous demandez à une personne, vous lui prêtez un hélicoptère, vous lui dites « tu vas où tu veux, tu vas voir si tu tombes sur la pièce avec la croix rouge dessus ». La probabilité pour que cette personne qui peut diriger l'hélicoptère où elle veut sur tout le territoire français et cherche dans l'épaisseur de 30 cm de pièces de 2 euros pour qu'elle tombe sur la pièce qu'elle cherche, c'est le même chiffre, c'est 1 sur 10 à la puissance 17 à peu près. C'est une illustration pour vous donner un ordre de grandeur. C'est le même, donc ce n'est pas évident de tomber sur la bonne pièce. C'est grand la France. Même en hélicoptère, se poser, et puis est-ce que je la prends sur le dessus, est-ce que je fouille tout au fond, est-ce que je vais au nord, est-ce que je vais au sud. C'est pour dire tout ça que les prophéties sont une garantie, c'est un tampon. Et ça n'existe dans aucune autre religion. Les autres religions ont quelques prophéties qui ressemblent plus à des mythologies qu'à des choses précises. Et puis le reste du chapitre, il nous dit, j'aime beaucoup l'expression que la parole de Dieu, elle brille dans un lieu obscur. Le message de la Bible, il est fantastique. On vit dans un monde de ténèbres. Et la parole, elle brille. Le monde, il s'obscurcit de plus en plus et c'est pour ça que la parole, elle est de plus en plus brillante. Si vous avez une bougie en plein jour, ça ne fait pas beaucoup de lumière, mais lorsque la nuit tombe, cette petite bougie, d'un seul coup, elle peut éclairer toute la pièce. Et puis, il explique, c'est un des passages clés pour comprendre la parole de Dieu. L'autre, c'est 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Là, il nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, verset 21. Poussé par le Saint-Esprit comme un bateau est poussé par le vent. Ils gardent leur humanité, leur style, mais c'est poussé par Dieu qu'ils révèlent les vérités de Dieu. C'est un peu comme si les prophètes avaient levé leur voile sur leur petit bateau et le Saint-Esprit les avait remplis de son souffle pour les mener dans la direction désirée par Dieu. La Bible, c'est un livre incroyable qui a été écrit sur près de 1600 ans par plus de 40 auteurs de toutes les conditions sociales. Il y avait des rois comme David et Salomon, il y avait des généraux comme Josué, des chefs politiques comme Moïse, un pêcheur comme Pierre ou Jean, il y avait un médecin comme Luc, un théologien comme Paul, il y avait même un inspecteur des impôts comme Matthieu, un premier ministre, Daniel, un échanson qui goûtait le vin, Néhémie, un berger, Amos, etc., etc. Dans des endroits complètement différents, Moïse a écrit dans le désert, Jérémie a écrit depuis un donjon en captivité, Daniel a écrit dans un palais, Paul a écrit en prison, Jean a écrit sur une île perdue en Grèce, certains ont écrit en voyage comme Luc. Ça a été écrit sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, en 3 langues, l'hébreu, l'araméen, qui était le langage parlé à l'époque de Jésus-Christ, proche de l'hébreu, et en grec ancien. Et pourtant, malgré cette variété dans le droit, de lieu, d'auteur, il y a une unité du message fantastique. Et elle parle, elle nous rappelle qu'il y a, dans l'existence humaine, il n'y a vraiment qu'un seul problème, c'est le péché, et que la seule solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Et encore une fois, elle peut être défendue scientifiquement, avec les maths des prophéties, avec les informations scientifiques qui ont été mises là depuis plus de milliers d'années, que la médecine découvre aujourd'hui. Et la Bible, elle brille, elle vous éclaire. J'aime bien, il parle que c'est comme... elle brille dans un lieu obscur et on va voir ce point de l'étoile du matin qui va se lever dans nos cœurs. Jésus-Christ va devenir réel, c'est une de ces expressions, l'étoile du matin, pour faire référence à la première étoile qui brille dans le ciel du matin, c'est souvent Vénus, l'étoile du berger. Nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Encore une fois, il nous a tout donné. Ne nous endormons pas. Lisons sa parole, connaissons-la. Sachons quelle est la vérité, parce qu'elle a été écrite par des témoins, pas par des... Ça n'a pas été fabriqué par des gens qui font du marketing pour créer une compagnie qui aurait duré jusqu'à maintenant. Et puis, il y a les prophéties et le fait qu'elle est inspirée, que c'est le Saint-Esprit qui l'a mise en place. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a transmise et qui nous la restitue aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis d'avoir cette parole disponible qui veut nous transformer, nous permettre de connaître le Seigneur. Le prophète Osée, 6:3 a dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Et ainsi, nous pourrons connaître Dieu et nous pourrons l'aimer, ce qui est le but de notre existence ici-bas. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous montres dans sa parole même qu'elle est digne de foi et qu'elle n'est jamais trop souvent rappelée, on l'étudie jamais assez, mais surtout, Seigneur, c'est en l'appliquant qu'elle devient une vérité dans nos vies, qu'elle nous transforme et qu'elle transforme le monde autour de nous. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de persévérer dans l'étude, dans la lecture et surtout dans l'application de ta parole pour que tu puisses bénir, nous bénir et bénir ceux qui sont autour de nous. Aide-nous à la répandre comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Merci parce que tu l'as inspiré, tu l'as préservé et Seigneur, tu l'as restitué. Par ton Esprit Saint, tu l'as fait parler, tu la rends vivante à nos cœurs. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Amen.